Et l'on continue de voyager au-delà de nos frontières avec nos amis de Courrier International. Bonjour Ingrid Terwatt.
Bonjour Amélie Perrier.
On débute en Tunisie, très durement frappée par la pandémie de Covid. Le pays a demandé l'aide de la France, notamment face au désespoir des soignants et aux pénuries d'oxygène, Ingrid.
Oui, la situation est tellement désespérée que mardi dernier, le jour de l'Aïd el-Kébir, le gouvernement tunisien a décidé d'improviser des journées portes ouvertes sur la plateforme numérique IVAX. Le but, c'était de permettre à plus de gens de se faire vacciner et puis aussi d'écouler les stocks de vaccins AstraZeneca et Sinopharm qui sont boudés par les citoyens. Ce que le gouvernement n'avait pas prévu, et c'est quand même très surprenant, c'est que les jeunes notamment répondraient très massivement à l'appel. Le résultat est clair. Le site d'information Business Insider le résume ainsi. Attente interminable, bousculade, cris et non-respect des consignes sanitaires. Le chaos a été tel que le ministre de la Santé a été limogé le soir même. Hichem Mechichi, le chef du gouvernement tunisien, a convoqué une réunion de crise et pendant cette réunion, il a lui-même parlé de cafouillage et couac quotidien. Bon, alors malgré ses mea culpa, Hichem Mechichi est quand même tenu responsable du manque d'oxygène, de vaccins et d'accès aux soins par ses concitoyens. Même le journal d'État La Presse souligne à quel point le chef du gouvernement est fragilisé. En fait, la crise sanitaire est en train de se transformer en crise politique. Plus exactement, la crise sanitaire se greffe sur une crise économique, sociale et politique qui existait déjà. La pandémie a donc encore plus aggravé la situation des gens et donc évidemment leur colère.
Une autre colère, à des milliers de kilomètres de là maintenant, celle de Cuba contre son gouvernement, Ingrid, avec des manifestations.
Liberté, ont clamé des dizaines de milliers de Cubains, exaspérés.
Ça suffit, la répression et la faim. On s'est toujours tués, on n'a jamais rien dit, mais ça suffit.
On a peur depuis 62 ans, ça suffit, c'est fini. Cuba ne leur appartient pas, Cuba est à tous les Cubains.
Des manifestations, Ingrid, assez exceptionnelles sur l'île castriste.
Exceptionnelles. Et ce qui est surprenant, Amélie, ce n'est pas que les Cubains soient en colère, c'est qu'ils le fassent savoir en descendant dans la rue. Ça a commencé le 11 juillet dans toutes les provinces du pays. Conectas, une plateforme d'information collaborative qui rassemble plusieurs médias d'Amérique latine, explique à quel point c'est historique, car sur l'île, la rue appartient normalement au pouvoir. Selon Conectas, il s'est passé quelque chose de remarquable et d'inédit en 60 ans. Des gens de tous milieux, des intellectuels, des pauvres, des jeunes, se sont retrouvés, sans avoir de leader, de mot d'ordre officiel ou d'organisation, pour crier leur colère. On l'a entendu. Il faut dire que la situation sanitaire liée à la pandémie est complètement catastrophique. D'ailleurs, notre Conectas, c'est moins par réaction que par effet d'accumulation que le pays en est arrivé là. Le Covid-19, c'est la goutte de trop pour une population obligée de s'approvisionner dans des magasins qui n'acceptent que des devises étrangères alors que la monnaie locale ne cesse de dégringoler. Une population qui manque de nourriture, qui manque de médicaments, qui subit d'interminables coupures d'électricité, qui, par-dessus le marché, subit l'embargo renforcé par Donald Trump. Ceux qui sont descendus dans la rue, c'était des gens qui n'avaient plus rien à perdre, explique Conectas. Le gouvernement a organisé des contre-manifestations et finalement a réprimé le mouvement en procédant à des arrestations, en coupant Internet, en lançant une campagne de dénigrement. Pour autant, Amélie, il ne faudrait pas voir tout en noir. Le fait même que ces soulèvements aient eu lieu, et de façon spontanée, donne quand même de l'espoir pour l'avenir. Alors non, il n'y aura peut-être pas de révolution ou de grands changements, mais, et je cite à nouveau Conectas, ces manifestations sont un exercice d'apprentissage démocratique, une preuve que, même à Cuba, le pouvoir de l'État n'est pas illimité.
Et l'on termine au Brésil, Ingrid, car dans Courrier International, on parle cette semaine de funk carioca.
Que quede claro, si tú te portas bien, yo te lo voy a dar como nunca te han dado. No te equivoques.
Visiblement, Amélie, vous aimez bien cette musique.
J'adore.
Vous êtes comme les Brésiliens, ils en raffolent comme vous. D'ailleurs, le funk carioca vient d'être intégré à la catégorie urbaine des Latin Grammy Awards, qui récompense les chansons en espagnol et en portugais, et dont la prochaine édition aura lieu le 18 novembre prochain. Selon le site d'information UOL, cette reconnaissance doit beaucoup à Anita, la star du genre et la plus célèbre des funkeras que vous entendez là maintenant. Et vous voyez, Amélie, tout ça, c'est pas une mince affaire, ni une petite victoire pour un style musical qui est né dans les favelas de Rio il y a plus de 30 ans. Depuis plusieurs décennies, les jeunes des favelas, ces quartiers défavorisés de Rio, se retrouvent par milliers le soir dans des balles funk pour danser sur ces sons inspirés de la Miami Bass. Et les autorités ne voient pas ça d'un très bon œil. Elles criminalisent les chanteurs et les amateurs de funk carioca. Par exemple, en 2019, une descente policière dans un bal a entraîné un mouvement de foule qui, à son tour, a entraîné la mort de 9 jeunes. Et puis les chanteurs sont victimes d'une forme d'acharnement, on peut le dire, policier et judiciaire, pour des tas de raisons, par exemple, pour association au trafic de drogue. Et pourtant, le quotidien Correio Brasilien s'explique que petit à petit, cette musique de ghetto s'est popularisée. Elle est devenue rentable. Elle a attiré l'attention des producteurs et des maisons de disques d'abord dans d'autres villes du Brésil et puis ensuite dans le monde entier. Finalement, la funk carioca suit un chemin similaire à celui de la samba. Et puis alors, en vous voyant danser, et puis après ces quelques explications, Amélie, je me demande si la funk carioca s'offrira aussi un chemin vers vos oreilles cet été. En tout cas, en attendant les Latin Grammy Awards de cet automne que vous suivrez, je suis sûre, avec délectation.
Absolument, j'adore. Merci Ingrid Terwa de Courrier International. On se retrouve samedi prochain.
À la semaine prochaine, Amélie Perrier.
Courrier International sur un air d'Anita qui chante ici Veneno. France Inter, il est 6h52.